Penser par soi-même. Un des apprentissages les plus importants que j'ai fait dans ma formation d'hypnose a été l'exploration des croyances. Ce que nous tenons pour vrai n'est qu'une hypothèse pour appréhender le monde et lui donner du sens. Un costume qui masque notre nudité. Souvent, il nous protège du froid. Parfois aussi, il nous fait suer sang et eau et devient la source même de notre souffrance. Identifier nos croyances les plus ancrées est une tâche ardue. Elles sont souvent enfouies sous les couches de l'évidence, au point d'être invisibles à nos yeux. Si par exemple un client m'exprime sa problématique de la manière suivante. « Je suis très en colère contre ma mère. Jamais pendant mon enfance, elle ne m'a valorisé, ni fait de compliments. Il n'y avait pas d'amour. » On peut identifier à première vue une croyance du type « Ma mère ne m'aimait pas ». Mais derrière cette croyance apparente se cache peut-être une autre croyance, plus profonde. Souvent, une question qui m'aide à déceler les croyances est la suivante. À quoi il faut croire pour dire, penser ou exprimer les choses de cette manière? À quoi mon client doit croire pour dire « ma mère ne m'aimait pas ». On pourrait alors mettre à jour une croyance enfouie du type « ma mère devrait m'aimer ». Et si on généralise, ça donnerait quelque chose comme « les parents devraient aimer leurs enfants ». Est-ce vrai? Parfois, questionner une croyance de fond permet de reconsidérer la vie sous un angle nouveau. Peut-être qu'en apprenant à nuancer qu'aimer ses enfants pour un parent n'est pas naturel ni indu, mais une possibilité, cela aiderait le client à apaiser sa colère liée à ses attentes insatisfaites. Le recadrage de croyances est une arme à manier avec précaution avec nos clients. Cela peut vite se transformer en abus de pouvoir et devenir contre-productif, voire dangereux, en brisant l'alliance thérapeutique, en renforçant une problématique de dépendance chez le client, ou encore en entraînant un effondrement de son système de croyances et ses repères. Parce que ce que nous pensons être un mieux pour l'autre ne l'est qu'à travers le filtre de nos croyances personnelles. Comme ces parents qui forcent leurs enfants à finir leurs assiettes de légumes parce que c'est pour leur bien et qui ne parviennent au final qu'à les en dégoûter. La mission de l'accompagnant, c'est de savoir s'adapter avec souplesse aux croyances du client pour le rejoindre, l'aider à cheminer là où il en a besoin. Je reprends un exemple. Si un client musulman, pratiquant, arrive rongé par la souffrance et la culpabilité, persuadé que son désir homosexuel est un crime puni par les flammes de l'enfer. Nous ne sommes pas là pour lui donner des conseils ou lui faire changer sa vision du monde. Mais peut-être pour le rejoindre dans la violence du conflit intérieur qu'il vit, afin qu'il se sente entendu et accueilli, et réussissent à exprimer ce qu'il recherche. Peut-être qu'il a juste besoin d'accepter ce conflit interne qui ne changera pas entre ses pulsions sexuelles et sa morale religieuse, qu'on pourrait appeler dans une autre grille de lecture « tension entre le ça et le surmoi ». Mais le risque de relativiser et de s'adapter aux croyances des autres, c'est de finir par s'y perdre et de ne plus être capable d'identifier les nôtres. Ce sentiment d'être perdu entre différentes visions du monde, je le connais depuis l'enfance. J'en parle dans cet article que je te mets en lien. Être arabe et français m'a amené à relativiser pas mal de choses et à être plutôt ouvert par certains aspects, mais cela a aussi créé chez moi pas mal de peur et de confusion. Et je n'ai toujours pas résolu cette question qui me perturbe encore. Comment savoir en quoi croire ? Dieu, par exemple, a été un grand sujet de confusion pour moi à l'adolescence. Originaire d'une minorité chrétienne d'Égypte, où la croyance en Dieu est vraiment identitaire, notre religion est même inscrite sur notre carte d'identité, j'étais un adolescent très croyant, peut-être même un peu extrémiste dans ma vision du bien et du mal, jusqu'à un certain événement qui est venu tout chambouler. Je t'en parle dans cet article-là que je te mets aussi en lien. Sauf qu'au lycée, tous mes potes et les personnes qui m'inspiraient le plus étaient athées et anti-religieux. Et il m'était impossible de m'identifier à ces cathoréaques qui, eux, croyaient en Dieu, mais dont je ne partageais absolument pas les valeurs. Alors quoi faire? Devais-je continuer à croire en Dieu et être en décalage avec tous mes potes? Ou abandonner cette croyance et perdre le lien avec ma famille, mon pays d'origine? Les doutes sont arrivés et ma croyance en Dieu a commencé à s'effriter. Je n'arrivais plus à être sûr que Dieu existait vraiment. Si c'est une vérité, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord? Et surtout, pourquoi est-ce que je me sens bien mieux avec des gens qui, selon mes croyances, sont dans l'erreur et qui ont l'air d'être bien plus libres et heureux que moi? Est-ce que mes croyances sont une erreur? J'étais perdu. Dans une de mes phases pour trouver des arrangements avec Dieu et mes croyances, j'avais conclu que Dieu existait en Égypte, mais qu'il n'existait pas en France. Cela n'a pas tenu longtemps. J'ai fini par me convertir à l'athéisme et entrer dans cette nouvelle religion, avec le même extrémisme que précédemment. Il y avait le monde des bons et celui des mauvais. J'avais, sans le savoir, quitté une religion pour une autre, jusqu'à ce que mes croyances dans l'athéisme vacillent à nouveau, en commençant à fréquenter le milieu de l'accompagnement, très marqué par une autre croyance, celle du syncrétisme New Age. J'ai alors adopté une posture d'incertitude qui n'est peut-être rien d'autre qu'une nouvelle croyance, que le cinéaste Jean Renoir a traduit dans son film La règle du jeu par cette phrase: tout le monde a ses raisons. Voire tout le monde a raison. Sauf que cette difficulté à avoir accès à mes propres croyances me donne le sentiment d'être une girouette qui fluctue au gré des lectures, tantôt sceptique et remettant tout en question, tantôt croyant dans la pensée magique et les forces de l'esprit, me laissant influencer par celui ou celle qui parle le plus fort ou le mieux. Apprendre à penser par soi-même, c'est un effort quotidien qui demande de l'introspection, de la curiosité, de la remise en question, de l'honnêteté intellectuelle. Mais à la fin, quand t'as pesé le pour et le contre, faut bien que tu fasses un choix, non? Sauf que si choisir pour toi est douloureux, parce que tu le vis comme une exclusion et un rejet, tu fais comment? Comme ça me manque parfois de ne pas pouvoir retrouver la foi du charbonnier, qui, comme dirait Brassens dans la chanson, est heureux comme un pape et con comme un panier. C'est quand même plus confortable que d'avoir le cul entre deux chaises et d'avoir peur de choisir celle sur laquelle t'asseoir, avec ce sentiment angoissant que je n'ai toujours pas appris à penser par moi-même.